Amen, chers sœurs. Bienvenue à l'édition 2021 de la formation étudiantine pour l'Amérique du Nord. Amen. Le titre de la formation, c'est Levez-vous et bâtissez. Bien que vous soyez en sourdine, répétons ce titre ensemble. Levez-vous et bâtissez. Levez-vous et bâtissez. Levez-vous et bâtissez. Alléluia. Cette semaine, le Seigneur nous appelle à nous lever et à bâtir. Et donc, si vous êtes avec un groupe de saints, je vous encourage à chanter un cantique et à vous réjouir du Seigneur en vous exerçant de votre esprit. Si vous êtes sur Zoom et que vous chantez avec nous, alors nous allons passer la parole aux frères qui vont nous aider dans ces cantiques et nous allons commencer à nous réjouir du Seigneur maintenant. Amen. Merci Seigneur pour cette formation. Oh, nous sommes avec le Seigneur pour tout ce week-end. Nous allons chanter un premier cantique. Tes paroles ont été trouvées, c'est dans Jérémie. Je vais essayer de traduire le cantique. Tes paroles ont été trouvées, je les ai dévorées. Tes paroles sont devenues pour moi. Elles sont devenues pour moi l'agrément et la joie de mon cœur. Elles sont devenues l'agrément et la joie de mon cœur. Je vais m'entretenir sur tes préceptes et considérer tes voies. Je vais faire de la Bible ma prière et ma louange. Je vais la chanter le matin et je vais la prier durant toute la journée, jusqu'à ce que Jéhovah devienne ma force et mon cantique. Tes paroles ont été trouvées et je les ai dévorées. Tes paroles sont devenues, elles sont devenues pour moi l'agrément et la joie de mon cœur. Elles sont devenues l'agrément et la joie de mon cœur. Je m'entretiendrai de tes préceptes et j'aurai de la considération pour tes voix. Je ferai de la Bible à la fois mes prières et mes cantiques. Je la chanterai le matin. Je la prierai durant toute la journée jusqu'à ce que Jéhovah devienne ma force et mon cantique. Je m'entretiendrai sur tes préceptes. Je considérerai tes voix, je changerai la Bible en ma prière et mon cantique. Je la chanterai le matin et je la prierai durant toute la journée jusqu'à ce que Jéhovah devienne ma force et mon cantique. Amen. Je chanterai le matin et prierai toute la journée, jusqu'à ce que Jéhovah devienne ma force et mon cantique. Nous allons continuer avec un autre cantique, c'est le chant numéro 2 qui est lié au thème de cette année. Levons-nous et bâtissons. Nous pouvons le chanter, je sais même en français. Loin à Babylone, en captivité, ô Dieu, assimilé notre esprit. Partout dispersé et sans unité, ô Dieu, assimilé notre esprit. Esprit, esprit, ô Dieu, assimilé notre esprit. Esprit, esprit, ô Dieu, assimilé notre esprit. Hors de Babylone, lieu de toute secte, levons-nous, quittons les divisions. Non, non, Babylone n'est pas le terrain. Levons-nous, quittons les divisions. Debout, debout. Levons-nous, quittons les divisions. Debout, debout. Levons-nous, quittons les divisions. Oui, nous allons tous à Jérusalem, montons tous, oui, Dieu est avec nous. Vers l'unique terrain de l'unité, montons tous, oui, Dieu est avec nous. Montons, montons, montons tous, oui, Dieu est avec nous. Montons, montons tous, oui, Dieu est avec nous. Vase plein de Christ, ivre de l'Esprit, tous nos vases, Seigneur, nous t'offrons. Prends-nous pour l'Église selon ton désir, tous nos vases, Seigneur, nous t'offrons. Offrons. Tous nos vases, Seigneur, nous t'offrons. Offrons. Tous nos vases, Seigneur, nous t'offrons. À Jérusalem, ville du Seigneur, le temple de Dieu, nous bâtissons. Avec tous les saints, d'un commun accord, le temple de Dieu, nous bâtissons. Temple, le temple de Dieu, nous bâtissons. Temple, le temple de Dieu, nous bâtissons. Bâtissons. Oh, simule notre esprit. Exerçons notre esprit. Oh. Nous rechantons à nouveau. En captivité, ô Dieu, assimilez notre esprit. Partout dispersé et sans une idée, ô Dieu, assimilez notre esprit. Esprit. Ô Dieu, assimilez notre esprit. Esprit. Ô Dieu, assimilez notre esprit. Nord de Babylone, lieu de toute cette levons-nous, quittons les divisions. Non, Babylone n'est pas le terrain. Levons-nous, quittons les divisions. Debout. Levons-nous, quittons les divisions. Debout. Levons-nous, quittons les divisions. Oui, nous allons tous à Jérusalem. Montons tous, oui, Dieu est avec nous. Vers l'unique terrain de l'unité. Montons tous, oui, Dieu est avec nous. Montons tous, oui, Dieu est avec nous. Montons tous, oui, Dieu est avec nous. Vase plein de Christ, ivre de l'Esprit, tous nos vases, Seigneur, nous t'offrons. Prends-nous pour l'Église selon ton désir, tous nos vases, Seigneur, nous t'offrons. Offrons. Tous nos vases, Seigneur, nous t'offrons. Offrons. Tous nos vases, Seigneur, nous t'offrons. À Jérusalem, ville du Seigneur, le temple de Dieu, nous bâtissons. Avec tous les saints d'un commun accord, le temple de Dieu, nous bâtissons. Temple, le temple de Dieu, nous bâtissons. Temple, le temple de Dieu, nous bâtissons. Jérusalem, ville du Seigneur, le temple de Dieu, nous bâtissons. Avec tous les saints d'un commun accord, le temple de Dieu, nous bâtissons. Temple, le temple de Dieu, nous bâtissons. Temple, le temple de Dieu, nous bâtissons. Temple, offrons. Tous nos vases, Seigneur, nous t'offrons. Offrons. Tous nos vases, Seigneur, nous t'offrons. Montons tous, oui, Dieu est avec nous. Montons tout sujet est avec nous. Debout, debout, levons-nous, quittons les divisions. Debout, debout, levons-nous, quittons les divisions. Esprit, esprit, oh Dieu, assimile notre esprit. Esprit, esprit, oui Dieu, assimile notre esprit. Amen. Esprit, oh, assimile notre esprit. Le Seigneur a assimilé notre esprit. Amen. Nous continuons avec notre cantique qui n'est pas sur la liste. Je vais essayer de traduire les paroles écrites. Emporte-moi loin. Je veux te plaire. Durant tout mon temps avec toi, oh, puisses-tu me remplir profondément. Tu viens comme un voleur. Ma maison sera percée par toi. J'ai encore ce jour. Rends-moi précieux pour toi. Seigneur, restaure les années que les locustes ont mangé et criqué. Tu m'as racheté de la vie de vanité, une vie qui s'enfuyait, une vie pleine d'activité, mais qui ne se souciait pas de toi. Puisse ta grâce me remplir comme au jour de Noé, devant tes yeux. Emporte-moi, je veux te plaire. Durant toute ma vie avec toi, remplis-moi, ô Seigneur. Tu viens comme un voleur et tu perceras ma maison. Alors, pendant que j'ai ce jour, rends-moi précieux pour toi. Nous pouvons choisir. Nous pouvons être des vierges folles ou des vierges sages. Nous pouvons être des vases remplis de toi pour aller te rencontrer. Nous serons avec toi, ton épouse, nous serons avec notre époux, nous nous réjouirons de son festin. Nous voulons saisir chaque opportunité aujourd'hui. Puissions-nous choisir chaque opportunité. Emporte-moi loin avec toi, je veux te plaire. Durant tout mon temps avec toi, puisses-tu me remplir profondément, Seigneur. Je viens comme un voleur. Et tu perceras ma maison. Alors, pendant que j'ai cette journée, je prie que tu me rendes précieux pour toi. Lorsque nous nous levons, nous devons prendre le temps chaque matin pour dire, Seigneur, écoute nos voix pendant que nous chantons et louons. Seigneur, grandis en nous tous les jours. Fais de nous ces pierres, transforme-nous qui sommes l'argile, constitue-nous pour que nous devenions des personnes précieuses entre tes mains. Emporte-moi loin, Seigneur, je veux te plaire. Durant tout le temps que je passe avec toi, oh, veux-tu bien me remplir plus profondément, Seigneur? Tu viens comme un voleur et tu perceras ma maison. Alors, pendant que j'ai cette opportunité aujourd'hui, rends-moi précieux pour toi. Nous ne devons pas oublier notre rassemblement avec les saints. Pendant que nous voyons le jour s'approcher de plus en plus, nous devons ensemble donc posséder les dimensions de Christ. Puissions-nous devenir ceux-là qui hâtent son retour. Emporte-moi loin avec toi, Seigneur. Je veux te plaire. Durant tout le temps que je passe avec toi, ô Seigneur, veux-tu me remplir de plus en plus? Tu viens comme un voleur et tu perceras ma maison. Alors, pendant que j'ai cette journée, je prie que tu me rendes précieux pour toi. Amen. Seigneur, nous avons encore ce jour. Rends-nous précieux pour toi. Amen. Nous allons passer la parole au modérateur maintenant. Amen. Loué soit le Seigneur. J'espère que vous êtes toutes réjouies de ces cantiques en chantant au Seigneur de votre cœur. Quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez seul ou ensemble, en groupe, tournez-vous vers le Seigneur. Tournez le cœur vers le Seigneur et nous passons la parole maintenant à notre frère Marc. Amen. Amen. Eh bien, frères et sœurs, bienvenue à cette édition 2021 de la formation. Je pense que c'est une conférence nationale de fait, mais elle a en même temps lieu au niveau de la West Coast et de l'East Coast, la côte ouest et la côte est. Je crois que nous avons tous nos plans. Nous avons quelques-uns présents ici. Mais la majorité nous rejoignent sur Zoom. Nous voulons que vous preniez votre livret sur la formation. Nous voulons commencer par lire ensemble ce titre. Allons-y. Le sujet de cette formation que nous avons pour les 5 jours à venir. Levez-vous et bâtissez. C'est pas difficile, n'est-ce pas? Levez-vous et bâtissez. Mais le contenu de cette formation se décline en deux. Se lever, ensuite bâtir. Alors, les sœurs qui sont ici, vous dites levez-vous et les frères vont dire bâtissez. Allons-y, les sœurs. Levez-vous, les frères, bâtissez. C'est bien. Qu'est-ce que nous sommes ici pour faire? Levez-vous et bâtissez. Ensuite, c'est ça, notre espérance. Nous espérons qu'à la fin de cette formation, nous serons tous stimulés pour que nous puissions nous lever pour bâtir. Et si nous ouvrons notre livret, à la page 3, nous verrons le message 1. Le titre, c'est « Simuler dans notre esprit pour le recouvrement de l'édification de la maison de Dieu et pour la seconde venue de Christ. » Nous sommes suscités et stimulés dans notre esprit pour le recouvrement de l'édification de la maison de Dieu et pour la seconde venue de Christ. Donc, j'espère que, puisque nous sommes ensemble, nous pourrons apprécier de manière rafraîchie la maison de Dieu et ce qu'il fait sur la terre aujourd'hui. Le plan de ces 6 messages vient de 2 livres de l'histoire, de 2 livres historiques, Ezra et Néhémie, et comme nous le verrons dans le 2e message, ils viennent aussi du livre d'Agé, un prophète qui a vécu au même moment qu'Ezra et Néhémie. Ces livres sont des livres d'histoire, Ezra et Néhémie. Ces 2 livres, ensuite en plus d'Agé et Zacharie, forment ce que nous appelons les livres du recouvrement. Les livres du recouvrement. Et nous parlerons de ce que c'est que le recouvrement dans ce contexte. Mais avant cela, et pour pouvoir établir le fondement pour cette formation et même pour les autres messages, je crois qu'il serait nécessaire que nous puissions survoler cette histoire de Dieu avec son peuple, commençant par les parents, les ancêtres, Abraham. Abraham a été choisi et appelé par Dieu. Il a été choisi pour sortir sorti, il a été appelé par Dieu hors de la Chaldée, qui est le pays de Babel. Et Dieu lui a promis qu'il lui donnerait un bon pays, celui de Canaan. Donc, Abraham était le premier de la race appelée à entrer dans le bon pays. Et Abraham avait donc un fils, Isaac, et Isaac avait un autre fils appelé Jacob, qui est devenu Israël par la suite. Et Israël lui-même avait 12 fils, qui chacun avait une famille. Durant la vie d'Israël, lui-même et sa famille et ses fils sont allés en Égypte pour une longue période de presque 400 ans en Égypte. Ces 12 fils, avec leur famille, sont devenus 12 tribus. Et les 12 tribus sont devenues une grande nation de 2 millions d'hommes forts appelés Israël. Finalement, cette nation, ces gens ont été usurpés et rendus esclaves par le roi d'Égypte, Pharaon. Et ils ont crié à Dieu, ils ont crié à Jéhovah, qui donc a envoyé Moïse pour les délivrer, afin de les amener hors de ce pays d'esclavage vers ce pays de Canaan, le bon pays. Moïse a donc conduit le peuple hors d'Égypte et Dieu les a conduits dans un lieu appelé le mont Sinaï, où ils ont demeuré pendant beaucoup de temps avec Dieu, qui les a formés, qui les a perfectionnés, en leur donnant également la loi morale, la loi cérémonielle, et il a même conclu une alliance avec eux, parce que son intention originelle était que ce peuple devienne une nation de sacrificateurs, une nation de sacrificateurs. Donc, l'histoire continue. Ce peuple finalement arrive au bord, à l'entrée de Canaan. Dieu leur a ordonné à travers Moïse en leur disant que lorsqu'ils entreraient dans ce pays, ils doivent débarrasser ce pays de tous les habitants, tous les Cananéens, les tuer entièrement, les détruire et détruire tous leurs idoles, tous leurs faux dieux et tout ce qui touche à l'idolâtrie. Et Josué a accepté cet ordre. Il est entré dans le pays, il a été fidèle. Il a débarrassé le pays d'au moins tous certains de ses habitants, mais il n'a pas été fidèle pour détruire tout ce peuple. Donc il a blessé certains de ses habitants dans ce pays, et finalement ce reste est devenu une pierre d'achoppement pour le peuple d'Israël. L'intention de Dieu. Pourquoi, peut-être vous posez la question, pourquoi est-ce que Dieu a décidé de détruire tout ce peuple dans le pays de Canaan? Après tout, ils étaient les premiers occupants de ce pays. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Son intention originelle était d'avoir une nation qui était séparée, complètement séparée des autres peuples de la terre. Un peuple qui serait particulier, qui vivrait une vie du royaume, une vie qui exprime Dieu, une vie qui étonnerait tous les peuples environnants, et qui ce peuple environnant verrait que ce peuple est différent, qu'il s'agit du royaume de Dieu. À ce moment, l'histoire est un peu devenue mixte, mélangée. Il y a des moments glorieux. Et on dit qu'à un certain moment, le peuple de Dieu a commencé à faire ce qui était bon à leurs yeux. Et Dieu a plutôt commencé à les châtier et à détruire leurs idoles qu'ils suivaient. Et à un certain moment, ils criaient vers Jéhovah. Et Jéhovah envoyait des juges pour les délivrer de la main de leurs ennemis et pour les retourner à Dieu. Et à d'autres moments, ils se levaient pour plaire à Dieu. Il y a également eu des rois, comme le roi David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Ce roi a soumis tous les peuples autour de lui, tous les ennemis de Dieu, tous ceux-là qui menaçaient le royaume de Dieu, il les a soumis et il a finalement réuni le peuple sous le trône. Et il y a eu également un roi, le roi Salomon, le fils de David, qui a édifié selon construit le royaume selon le modèle qui lui a été donné de son père David. Il a construit le temple de Jéhovah, la maison de Dieu. Lorsque ce temple a été bâti, ce temple a beaucoup, une grande signification. Lorsque nous parlerons au grand 1, nous verrons que cette maison était un type de Christ en tant que la maison de Dieu dans un sens individuel. C'est-à-dire que le temple préfigurait quelque chose c'est quelque chose qui parlait de Christ, Jésus-Christ en tant qu'une personne qui viendrait donc être la réalité de ce temple. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, il est dit que le Seigneur a habité, comme il s'est établi comme un tabernacle parmi nous. Et dans Jean 2, il parle du temple de son corps. C'est-à-dire cette maison, et Christ est l'accomplissement de cette maison, de ce temple dans le sens individuel. Mais non seulement cela, le temple était aussi un type de l'Église, corporativement. C'est ce que nous pouvons voir dans Éphésiens chapitre 2, où il nous est dit que nous grandissons pour devenir le temple de Dieu, une maison sainte dans le Seigneur. Et également, dans Éphésiens 2, le verset suivant, verset 22, dit que nous, en tant que l'Église, sommes édifiés ensemble pour devenir une maison d'habitation de Dieu en esprit. Enfin, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 3, 15 que la maison de Dieu, il nous dit explicitement que la maison de Dieu est l'Église, l'Église du Dieu vivant. Donc cette maison de Dieu, ce temple était un type de Christ individuellement et un type de l'Église corporativement. Donc lorsque ce temple qui a été bâti par Christ, par Salomon, a été édifié, a été construit, la gloire de Jéhovah est descendue et l'a remplie. C'était donc le summum, le point culminant de la gloire de Dieu parmi les nations. Et il y avait sur la terre un témoignage de Dieu et toutes les nations le savaient. Ils ont vu ce peuple particulier, ce peuple de Dieu, le Dieu, pardon, de ce peuple est également un Dieu particulier qui ne ressemble, qui n'a rien à voir avec tout autre Dieu. Et à partir de là, nous connaissons l'histoire. L'histoire a pris un courant descendant. Israël n'a pas été fidèle à Dieu et ils ont commencé à adorer les idoles. En fait, ils ont fait dès le début les idoles même de ce peuple qui était resté au milieu d'eux parce qu'ils n'avaient pas été fidèles pour éradiquer ce peuple. Donc ce peuple est revenu pour devenir un piège pour eux avec leurs idoles. Et Israël a commencé à poursuivre ses idoles. Comme résultat, le peuple a abandonné Dieu. Non seulement cela, après Salomon, la génération qui suivit immédiatement, le royaume a été divisé en deux. Il y a eu le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et non seulement le royaume a été divisé, mais il y a même eu d'autres adorations, d'autres centres d'adoration qui ont été suscités. Et le peuple pouvait donc se rendre dans des lieux différents pour adorer selon leur choix au lieu d'aller au lieu choisi par Dieu. Et la dégradation s'est finalement intensifiée, elle est devenue de plus en plus grave que Dieu a dû juger. Il a commencé par juger le royaume du nord, le royaume d'Israël, en permettant, en laissant qu'il soit capturé par les Assyriens. Et même le royaume de Juda, qui était à Jérusalem, qui avait le temple, même ce temple de Juda a été capturé par les Assyriens. Non pas par les Assyriens, pardon, mais par les Babyloniens. Et c'est comme ça que la nation d'Israël tout entière s'est retrouvée à sa fin, une fin vraisemblablement à sa fin. En fait, la maison que Salomon avait bâtie avait été détruite, l'autel a été consumé, le mur de la cité, les murailles de la cité ont été démolies. Et une fois que ce mur a été détruit, la ville a cessé d'exister. Alors le pays a été usurpé et gouverné désormais par les païens. Et la situation est devenue misérable, pitoyable, que le prophète Jérémie, étant sur la montagne de Sion, a passé du temps à se lamenter. C'est ce que nous avons dans le livre des Lamentations, n'est-ce pas? Écrit par Jérémie. Et Dieu a donc permis que son peuple soit emporté en captivité. Et il n'a pas fait, il a fait cela, mais il a également promis que le peuple retournerait. Il a fait cela avec Jérémie. Jérémie a prophétisé qu'après 70 années dans la captivité, le peuple de Dieu serait restauré et reviendrait au pays. La captivité ne serait pas quelque chose de perpétuel, mais le peuple, il y aurait un reste parmi le peuple qui reviendrait, qui serait délivré de la captivité. Et ce reste, à travers ce reste, l'autel serait à nouveau érigé et la maison serait rebâtie. Et à travers ce reste, les murs, la muraille de la cité serait rebâtie. Dieu, à travers Jérémie, a dit à ce peuple qu'il allait recouvrer ce qu'il avait dans les années précédentes. Et ce qu'il avait pensé à l'origine, il allait les récupérer. Ceci donc nous amène, puisque j'ai déjà avec ceci parcouru le grand 1, ceci nous amène au grand 2. J'aimerais le lire. Le recouvrement, grand 2, oui. Le recouvrement de l'Église est typifié par le retour des enfants d'Israël de leur captivité, parce que l'Église était devenue dégradée. Elle a besoin d'être restaurée. Ceci nous amène au mot recouvrement. Qu'est-ce que nous entendons par le recouvrement? Le recouvrement implique quelque chose était là à l'origine, mais que cette chose a été perdue. Ainsi, elle a besoin, nous avons besoin de recouvrer cette chose qui était perdue. Dans l'Ancien Testament, il y avait une certaine gloire au jour de Salomon, avec le temple et les nations qui étaient autour et qui le savaient. Les Israélites se réjouissaient du bon pays, un type de Christ bien sûr, tout inclusif. Ils avaient le temple également comme un type de l'Église, comme nous venons d'en parler. Mais parce que ce peuple a été distrait, ils ont abandonné Dieu, ils ont poursuivi des idoles, Dieu a permis qu'ils soient amenés en captivité. Eh bien, l'Église aujourd'hui est un accomplissement du type de ce peuple d'Israël. Dans ce sens, dans Galates 6, Paul, parlant aux croyants du Nouveau Testament, les appelle la véritable Israël de Dieu. Donc, si vous lisez l'histoire, vous pouvez voir beaucoup de parallèles, de parallélisme entre l'Église, ce qui s'est produit dans l'Église et ce qui s'est produit avec le peuple d'Israël. Dans Actes chapitre 2, nous voyons que lorsque l'Église a été produite, il y avait une merveilleuse image d'un groupe de peuple qui vivait une vie du royaume très élevée. Écoutez, ils persévéraient dans l'enseignement et la communion des apôtres, et ils vendaient tous leurs biens et leurs possessions, ils avaient tout en commun et personne ne manquait de rien. Personne n'avait rien en excès. Il n'y avait pas d'inégalité que nous voyons aujourd'hui dans la société. Il n'y avait rien de cela. Ils persévéraient dans le commun accord, c'est-à-dire qu'ils étaient un dans le temple et ils rompaient le pain dans les maisons, de maison en maison. Ils participaient, ils prenaient leur repas avec exultation et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce devant tout le peuple. De la même manière qu'Israël l'avait fait auparavant, au temps de Salomon, les nations qui étaient autour d'Israël savaient que c'était un peuple qui a obtenu grâce devant Dieu. Dans l'Église, les gens également savaient que ce peuple, de l'Église. L'Église était le peuple de Dieu. Mais de même qu'Israël est devenu dégradé et finalement a été amené en captivité à Babylone, l'Église a aussi commencé à expérimenter la dégradation et le déclin. En fait, même dans le Nouveau Testament, nous voyons ceci avec l'apôtre Paul et l'apôtre Jean. Ils ont beaucoup écrit à ce sujet, pour contrecarrer la dégradation qui prenait place à leur temps. Eh bien, aujourd'hui, l'Église n'est pas dans un état meilleur. L'Église a fortement besoin du recouvrement et de la restauration. Et bien sûr, je parle de véritables croyants en Christ, que ce soit sur le sens personnel ou corporatif, ont été amenés dans une forme de captivité de plusieurs manières et à plusieurs égards. Certaines des bonnes choses et même des choses religieuses, des choses qui, au commencement, avaient pour but d'adorer Dieu, à donner gloire à Dieu, et qui pour finir sont retrouvés à cause du manque d'absoluité. Il y a eu de l'impureté qui s'est invitée. Peut-être certains ont commencé à se réserver de la gloire pour eux-mêmes. Et ces choses sont devenues des idoles pour eux. Alors, ne commettons pas l'erreur. L'histoire du peuple d'Israël n'est pas simplement une histoire. Ce n'est pas simplement une leçon d'histoire et nous ne pouvons pas prendre cela comme cela. Mais c'est également ce qui se produit parmi nous aujourd'hui. Nous devons prêter attention, prêter l'oreille aux paroles qui sont dans Ezra et Néhémie parce que c'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Le Seigneur aujourd'hui recouvre son œuvre. Il effectue une œuvre de recouvrement. Il avait quelque chose et il avait l'intention à l'origine de faire cela pour lui-même, mais quelque chose a été perdu d'une manière ou d'une autre et a besoin d'être recouvré aujourd'hui. Ce qui doit être recouvré, c'est quoi? L'expérience et la réjouissance de Christ, la pratique appropriée de la vie d'Église. Ce que Christ recherche aujourd'hui, c'est Christ et l'Église. Et dans 1 Corinthiens 10, au verset 6, toutes ces choses qui se sont produites avec Israël, ces choses, et je suis en train de citer, ces choses sont arrivées comme des exemples, afin que nous ne convoitons pas les mauvaises choses comme eux, ils l'ont fait. Et même le fait de convoiter des idoles. Alors, frères et sœurs, nous voulons voir dans cette formation ce que Dieu fait aujourd'hui sur la terre, dans et à travers son peuple élu. Continuons avec le A. Le recouvrement d'Israël de sa captivité consistait à reconstruire le temple comme la maison de Dieu sur la terre parmi ses élus et à rétablir le royaume de Dieu sur la terre pour l'accomplissement de l'économie éternelle de Dieu. Wow. Alors, le recouvrement de l'Église a pour but de retourner à l'intention éternelle de Dieu. Je n'ai pas suffisamment de temps pour creuser, mais si nous voyons la création de l'homme dans Genèse 1, 26, nous voyons qu'il y a deux choses qui le décrivent. Il est fait à l'image de Dieu. Ensuite, Dieu lui a donné la domination. Il y a donc cette dualité, l'image et la domination qui représente le double dessein de l'homme. Si nous existons, c'est d'abord pour exprimer Dieu. Ensuite, c'est afin que Dieu obtienne une représentation. C'est ça la domination. Alors, ce double dessein, c'est ce que nous retrouvons en parallèle dans Ezra et Néhémie, sous la forme de la maison qui est le temple et la ville qui est la muraille. Donc, vous avez d'une part la maison de Dieu pour son expression, et ensuite vous avez la ville qui signifie le royaume pour que Dieu puisse obtenir son autorité et sa représentation sur la terre. Voilà ce que Ezra et Néhémie nous disent. ces livres, dans ces livres, nous voyons l'intention, le dessein éternel de Dieu. Et dans ces livres, nous voyons comment cette intention est accomplie. C'est simplement son plan pour accomplir son éternel, son dessein éternel. B. Le recouvrement d'un reste des enfants d'Israël de Babylone à Jérusalem signifie le recouvrement par le Seigneur d'un reste de l'Église hors de la division et de la confusion qui règne aujourd'hui pour revenir au terrain initial de l'unité en vue de l'éducation de l'Église. Ici, nous parlons de Babylone vis-à-vis contre Jérusalem. Babylone est un pays d'idolâtrie, de division, de confusion. Les prédécesseurs, l'ancêtre de Babylone, c'est Babel. C'est dans l'histoire, n'est-ce pas? Vous vous rappelez cette histoire fameuse de la tour de Babel. Babel était rempli d'idoles. Chaque brique qui a été utilisée pour bâtir cette tour portait le nom d'une idole. C'était comme cela que l'idole était manifestée. Et Babel, c'est à Babel que Dieu est venu, pour confondre le langage des hommes, pour amener la confusion au milieu des hommes afin qu'ils ne se comprennent plus. Et donc, ils ont été dispersés à Babel. Alors, Babel a amené la confusion. Le mot Babel signifie lui-même confusion. Alors, Babylone, qui est en fait le successeur de Babel, est un lieu de division et de confusion. Ce qui contraste avec le désir de Dieu. Le désir de Dieu était quoi? L'unité, l'harmonie. L'unité, l'harmonie. Voilà pourquoi il n'y avait qu'un seul lieu que Dieu avait choisi pour y faire demeurer son nom. Et c'était Jérusalem. Et c'était une chose très sérieuse que de susciter un autre, d'établir un autre lieu d'adoration. C'était quelque chose d'intolérable au regard de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, tout ce qui concerne Dieu est un seul, dans le Nouveau Testament, pardon. Dans Éphésiens, il nous parlait d'un corps, d'un esprit, d'une espérance de sa gloire, d'un Seigneur, d'une foi, d'un baptême, d'un Dieu, d'un Père. Tous, l'attribut, le plus grand attribut de Dieu, c'est quoi? C'est l'unité. Et lorsque Dieu a cette expression doit être un seul dans l'Église. L'Église qui est Christ, l'Église telle que Christ l'a prophétisé dans Matthieu 16, est édifiée sur le terrain de l'unité. Voilà pourquoi dans sa prière, dans Jean 17, l'une de ses dernières prières, il disait qu'il faut que ses disciples soient un. Pourquoi? Afin que le monde puisse voir, que le monde puisse croire que toi, Père, tu m'as envoyé. Cette unité, s'il n'y a pas d'unité, alors il n'y a pas d'expression. Voilà pourquoi, entre Babylone et Jérusalem, Dieu a appelé tout simplement tous ceux qui étaient à Babylone, ses enfants, à sortir. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse 18, la Babylone la grande. L'appel aujourd'hui que Dieu lance, c'est quoi? Sortez d'elle, mon peuple. Dans la session qui suit, dans le grand 3, pour la dernière partie de la réunion, nous parlerons nous allons couvrir beaucoup de points qui nous demandent de nous lever. Nous serons des points qui nous permettent de monter quoi. Nous serons simulés, nous monterons, nous bâtirons. Donc, je vous donne déjà une idée. Et un de ces points nous demande de monter. Et avant cela, une fois, avant qu'il nous ait demandé de monter pour bâtir, dans ce cantique, nous avons chanté le cantique au sujet des vases qui ont été amenés à Dieu pour être présentés à Dieu pour qu'il puisse bâtir. Dans le temple, à l'origine, le peuple, les Babyloniens ont envahi le peuple. Ils ont pris tous ces vases et ont amené dans la maison de leur Dieu. Ça, c'est de Nebuchadnezzar. Ils ont placé cela dans la maison de leur Dieu, de leurs idoles. Dans ce passage où il est demandé d'amener les vases, cela a, apparaît deux fois, Cyrus le roi a amené, il a d'abord sorti le peuple afin de les amener à Jérusalem. Donc il les a demandé d'abord, il leur a demandé d'abord de sortir afin de leur demander de monter à Jérusalem. Donc j'aimerais dire ceci, afin de monter vers le Seigneur, monter à Jérusalem, nous devons d'abord sortir. Sortir d'où? Sortir des maisons des faux dieux. Nous pourrons dire peut-être, ah, je n'ai jamais adoré un dieu babylonien de toute ma vie. Non, je n'ai jamais fait cela. Cette parole n'est pas pour moi. Une idole, sachez-le, peut être n'importe quoi qui remplace Christ dans notre cœur. N'importe quoi qui nous empêche d'accomplir le dessein pour lequel nous existons et pour lequel nous avons été créés, cela pourrait être une idole. Et j'aimerais que tous les étudiants puissent considérer simplement cette année passée, tout ce qui vous aurait empêché de vous réjouir de Christ, qui vous aurait empêché d'expérimenter Christ, de gagner Christ, de posséder Christ, cela pourrait être une idole. Tout ce qui pourrait vous avoir empêché d'édifier l'église, la maison de Dieu, de manquer une réunion, de manquer une opportunité d'être édifié avec les autres, tout ce qui pourrait vous avoir amené à ne pas faire cela pourrait être une idole. Au lieu de lire la Bible, vous pouvez prendre plaisir à lire autre chose qui vous aurait peut-être captivé. Ça peut être quelque chose de assez vulgaire comme un jeu vidéo, Netflix, le jeu vidéo de basket, YouTube ou n'importe quelle autre distraction. Vous pouvez avoir été captivé par cela. N'est-ce pas? Et peut-être parlons même des choses nécessaires, comme l'école, les études, la carrière, le travail. Nous avons besoin de ces choses. Mais sommes-nous captivés par ces choses? Certains parmi nous ont des rêves honnêtes qui les empêchent d'avancer avec le Seigneur. Certains d'autres ont des ambitions. D'autres s'attachent à des relations humaines. D'autres personnes recherchent une forme d'honneur, des diplômes. Chacune de ces choses qui vous empêche de rater Christ, de manquer Christ, qui vous empêche d'édifier l'Église, nous avons besoin d'être délivrés, sortis de toutes ces choses, afin que nous puissions être amenés à Christ comme des vases pour être utilisés pour l'unique dessein pour lequel nous avons été créés, qui est de servir Dieu dans sa maison. Ok, un autre point concernant ce sujet, c'est la question du reste. Le reste, c'est quoi? C'est une petite portion qui reste. Et parmi les millions de peuples du peuple d'Israël, millions de personnes qui comptaient le peuple d'Israël, le nombre qui est revenu de Babylone vers le pays de Canaan, à Jérusalem, s'élevait seulement à quelques dizaines de milliers. Donc, parmi des millions qu'il y avait, seuls quelques milliers sont revenus de la captivité. Et c'est pas petit, c'est pas un nombre petit, c'est pas un grand nombre, pardon, mais c'est un nombre très petit. Mais cela a été suffisant pour Dieu. Dieu a pu se servir d'eux pour récupérer son bon terrain, le terrain de l'unité, et pour accomplir l'œuvre de reconstruction. Selon l'histoire, selon les faits, le peuple devait revenir, est revenu selon une manière particulière. La première partie a été conduite par Zorobabel, qui venait du trône royal. Il était responsable de l'édification de la maison de Dieu. Et ensuite, il y a eu le prêtre, le sacrificateur Ezra, qui a ramené une autre partie. C'est lui qui a accompli la reconstitution du peuple au moyen de la parole et le service. La troisième vague a été conduite par Néhémie. Il était les chansons du roi et il est retourné pour reconstruire la muraille de la ville afin d'obtenir le royaume. Et entre Zorobabel et Ezra, il y a eu Agé, Zacharie, parce que cette œuvre de reconstruction a été retardée et même stoppée à cause de l'opposition du peuple du pays. Et donc ils avaient besoin des prophètes pour encourager le peuple à se lever pour accomplir cette œuvre de reconstruction. Nous allons nous étendre sur la première partie concernant Ezra. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? C'était d'ériger l'autel et de rétablir l'autel et d'offrir des offrandes, des holocaustes sur cet autel. Cet holocauste signifie notre consécration. Notre consécration. Et j'espère que tous les étudiants, ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne, vous tous, que la première chose que vous ferez sera de consacrer tout ce qui vous reste pendant toutes vos années à l'université. Vous devez consacrer tout cela au Seigneur pour l'édification de sa maison. Si vous êtes en première année, commencez maintenant. Commencez vos années à l'université avec cet autel et offrez dès le début des holocaustes sur le Seigneur. Et ce sera une bonne fondation. Et lorsque vous aurez établi cette formation, comme c'était dans l'ancien temps, ils ont établi cette formation, c'était quelque chose de joyeux. Les plus jeunes criaient de joie et les plus âgés pleuraient. En sorte que finalement, on ne pouvait pas discerner qui pleurait et qui était dans la joie. Mais cette fondation, ce fondement du temple était crucial pour ce qui allait se produire par la suite. Et c'est cela qui a produit une telle célébration. Je vais un peu accélérer, parcourir ces points afin que nous puissions toucher le fardeau dans la dernière partie du message. C'est seule l'église édifiée selon le désir du Seigneur peut être le tremplin vers l'âge du royaume. Ainsi, pour son retour, le Seigneur a besoin que l'Église soit édifiée. Donc, le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de vous comme l'Église pour que vous soyez édifiés. Sans l'Église, il ne peut pas avoir de royaume. La maison a été édifiée et une fois que la maison l'a été, le royaume pouvait être établi. La muraille a été construite, mais Dieu a besoin de nous d'abord. Et le moyen par lequel nous pouvons commencer, c'est que nous devons être stimulés dans notre esprit. Et sur cela, nous abordons le dernier point qui occupera la dernière partie. Nous passerons beaucoup de temps sur le grand 3 et un peu de temps après dans le grand 4. Nous pouvons lire ensemble le grand 3. Le réveil de l'esprit de Cyrus et de l'esprit des chefs des tribus de Juda, Benjamin et Lévi, était une œuvre du Dieu caché qui prenait secrètement soin de ses élus opprimés dans leur dispersion. Alors, pendant qu'ils étaient en captivité, Dieu ne les avait jamais abandonnés, mais il était caché. Il était caché. Dieu est quelqu'un qui se cache, selon Ésaïe 45, et très certainement, il œuvrait en arrière-plan. Particulièrement dans l'esprit de Cyrus et dans l'esprit des chefs des tribus de Juda. Et donc, au début, peut-être les frères peuvent poster la diapositive. Je désirais au début lire ce passage pour vous, mais de toute façon, au lieu de lire le passage, j'aimerais tout simplement relever ce qui est important. Dans Ezra 1:1, le passage c'était en fait 1 à 11, mais nous pouvons simplement lire quelques-uns des versets qui contiennent ce que nous voulons. Il y a cette question d'être, de se stimuler, de réveiller l'esprit de Cyrus et du roi de Perse. Ensuite, il ordonne de bâtir une maison à Jérusalem. Ensuite, Cyrus dit: s'il y a quelqu'un parmi vous qui appartient au peuple de Dieu, parmi vous, que celui-là se lève et que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, à Juda, et qu'il construisent la maison de Jéhovah. Qu'ils montent, qu'ils construisent la maison de Jéhovah, le Dieu d'Israël, qui est à Jérusalem. Ensuite, plus loin, dans le verset 5, il ne parle plus simplement de l'esprit de Cyrus, mais aussi de l'esprit des chefs des maisons de Juda, de Benjamin, et ensuite des sacrificateurs des Lévites. Ils se sont tous levés, et même chacun, tous ceux-là dont Dieu avait réveillé l'esprit, ils ont été stimulés pour se lever, pour monter et pour bâtir. Donc il y a ces paroles qui montent. Ensuite, les vases ont été amenés. Tous ces vases ont été amenés, les vases d'or, d'argent, et tous ceux qui étaient en captivité sont montés de Babylone vers Jérusalem. Donc, en deux endroits au moins, il y a eu ce réveil de l'esprit. Réveil de l'esprit. Cyrus a eu son esprit réveillé. Je vais réveiller l'esprit de Cyrus et également les chefs. Dieu a également suscité l'esprit des chefs. Et qu'est-ce que nous voulons dire ici? Ce dont nous parlons ici, Dieu réveille notre esprit non pas en nous excitant de manière extérieure, non pas de manière émotionnelle, où nous nous préparons, nous nous échauffons pour un bon match. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, il s'agit d'être stimulé dans notre esprit. Et ce réveil qui doit se parachever dans l'édification de la maison de Dieu doit commencer par notre esprit. Alors le recommand du Seigneur commence par notre esprit qui a été stimulé par Dieu. Comment est-ce que nous sommes stimulés par Dieu? Nous devons d'abord voir que nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation pour voir ce que Dieu veut aujourd'hui et ce qu'il fait sur la terre. Sa maison est en ruine, la muraille est démolie et nous devons voir ce que Dieu veut sur la terre. Il veut recouvrer son expression et gagner sa représentation. Voilà pourquoi Jéhovah a réveillé, stimulé l'esprit de Cyrus et lui a dit, et voici ce que j'aimerais dire, dans Esdras, il est très clair, nous savons très clairement que c'est Jéhovah qui stimule l'esprit de Cyrus et l'esprit des chefs des maisons d'Israël, des tribus d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas très clair. Dans 1 Timothée 1, 6 à 7, Paul charge Timothée et il lui dit de ranimer. Il lui dit, ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi par l'imposition des mains. Et ce don, c'est quoi? C'est le don d'esprit qui n'est pas un esprit de peur, de crainte, de timidité, mais un esprit d'amour et d'intelligence sobre. Donc ici, Paul ne demande pas à Dieu de le faire pour nous, mais il demande à Timothée, à nous-mêmes, de stimuler, de réveiller notre esprit. Pourquoi est-ce qu'il y a la différence? Dans l'Ancien Testament, c'est Jéhovah qui stimulait l'esprit, mais dans le Nouveau Testament, c'est Timothée qui a cet ordre de ranimer la flamme. Dans l'Ancien Testament, donc il n'y a pas la réponse. La réponse n'est pas claire dans le Nouveau Testament. C'est que la réponse est que dans le Nouveau Testament, Dieu est dans notre esprit. Que le Seigneur soit avec votre esprit. Donc, lorsqu'il est dit que nous devons stimuler, ranimer la flamme, c'est que nous devons être un avec le Seigneur dans notre esprit pour ranimer cette flamme. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 14, il est dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Si vous voulez être stimulé, vous devez être un avec le Seigneur et ranimer votre esprit, ranimer la flamme. Alors le B, notre esprit est la demeure de Dieu, la base terrestre où Christ, l'échelle céleste, a été installé pour l'édification de Dieu en l'homme et de l'homme en Dieu. Et tout ce que je peux dire à ce niveau, c'est que pour édifier la maison de Dieu, ou pour devenir la maison de Dieu, nous devons exercer notre esprit. Aujourd'hui, cette maison de Dieu n'est pas ici ou là-bas, mais elle est dans notre esprit. Et cette échelle que Jacob voit dans son songe, cette échelle, c'est qui? C'est le Fils de l'homme dans notre esprit qui amène les cieux sur la terre et unisse la terre aux cieux. Ok, c'est une fois que nous sommes stimulés dans notre esprit, nous allons nous lever. Il y a une réponse corporative, c'est quoi? C'est que nous nous levons, nous montons, nous amenons et nous bâtissons. Nous nous levons. Nous avons tous commencé à Babylone, un lieu si bas. Donc nous nous levons de la vie du péché, de l'idolâtrie, des chemins misérables. Ici, c'est quoi? Nous nous levons de nos défaites personnelles qui nous disent que nous ne pouvons pas vaincre. Non, nous nous levons de notre méfait, de notre incrédulité. Et nous quittons, nous quittons ce chemin sans plus regarder derrière. Nous ne laissons rien nous retenir. Nous partons tout simplement, nous prenons des décisions, nous quittons, nous montons, nous nous séparons et ensuite nous amenons quoi? Nous amenons quoi? Les vases, et c'est nous ces vases. Nous nous présentons pour la maison de Dieu. Au lieu d'être utilisés pour l'adoration des idoles, des faux dieux, au lieu d'être utilisé pour contenir n'importe quoi qui n'est pas de l'or, qui n'est pas le vrai Dieu, présentons-nous, chers saints, comme un sacrifice vivant pour amener, nous préparer pour l'édification. Ensuite, soyons édifiés pour être la maison de Dieu pour son habitation. Et c'est quelque chose qui se passe de manière personnelle pendant que Dieu s'édifie en vous personnellement et vous êtes édifié en Dieu. Et cela s'accomplit également corporativement. Dieu nous édifie, nous personnellement, ensemble avec les autres. Et il s'édifie à travers nous et avec les autres. Alors, toutes ces paroles, se lever, monter, amener, bâtir. Oui, toutes ces paroles. Tout cela signifie que nous sommes un peuple qui montons. Nous sommes appelés à monter vers le haut. Ne restez pas au même niveau. Ne soyez jamais satisfaits ni... Ne vous contentez pas. Le frère va peut-être mettre la dernière diapositive. Nous devons être comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a regardé vers le haut. Il ne se contentait pas. Il oubliait toujours ce qui était derrière et il poursuivait vers ce qui était vers l'avant. Poursuivait vers le but, vers le prix vers lequel Dieu l'a appelé en Christ Jésus, vers le haut. Oh, puissions-nous aujourd'hui être, puissent nos années à venir être meilleures que les années qui sont derrière nous. Regardons toujours vers le haut, chers saints. Ensuite, l'ordre de Dieu de faire revenir les captifs n'avait pas pour seul but de reconstruire le temple de Dieu, mais il visait aussi à préparer le chemin pour amener Christ sur la terre la première fois. De même, pour sa seconde venue, Christ a besoin que certains de ses membres reviennent de leur captivité pour mener une vie d'église appropriée. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que quoi? En captivité, il y a eu ce reste qui sont allés à Juda, dans ce lieu appelé Bethléem. Il nous est dit qu'il s'agissait de 120, 123 qui sont revenus. Et parmi ces 123, ou bien avec ces 123, Dieu a pu susciter un dirigeant, un meneur, c'est Jésus, lui qui est venu la première fois. Donc Dieu a eu besoin seulement de ces 123 pour susciter Jésus. Je ne dirais pas que Dieu a besoin seulement de 123 aujourd'hui pour la seconde venue de Christ, mais cela pourrait ne pas être aussi nombreux que vous le pensez. J'espère tout simplement que nous tous, tous les étudiants, que vous serez stimulés pour être avec le Seigneur, pour être un avec lui, quel que soit le nombre, afin que vous en fassiez partie pour ramener le Seigneur pour sa seconde venue. J'aimerais m'arrêter ici. Loué soit le Seigneur pour l'édition 2021 de la formation des étudiants. Amen.